Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Les Sandines de la House.
Radio Rosanna
lo que se reproduce bien en la radio.
France Inter, le 18-20.
Aider ces jeunes-là en sortie, ça évitera l'immigration. Regarde tous les jeunes qui sont en train de voir là. Qu'est-ce qu'ils font demain? Ils vont au Libye.
Et pourquoi pas un cirque alors pour inciter les jeunes à ne pas quitter leur pays, mais pas n'importe lequel, le tir à Circus de Conakry. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, on vous y emmène et c'est en couleur. Ce soir également, tiens, pendant que vous avez froid. Les ours de l'Arctique, figurez-vous. Pourquoi des ours? Eh bien parce qu'il y fait 10 degrés et 10 degrés, c'est 30 degrés au-dessus des normales de saison. On vous le raconte dans Sous les radars. 18h50, le cinéma en VO. Corinne Pellissier a vu Lady Bird et Call Me By Your Name, les deux films dont on parle avant les Oscars. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, la Corée du Nord accusée par l'ONU de vendre des armes en Syrie. Mais avant, allons voir ce que Xi Jinping a dans la tête alors qu'il veut élargir son mandat bien au-delà des 5 ans renouvelables une fois, mais quelle mouche l'a piqué. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Démon, hein, a piqué Xi Jinping. Avec quel démon est-il aussi en train de renouer? Dimanche, on a donc appris que la Constitution serait modifiée pour lui permettre d'aller au-delà de ses 10 ans réglementaires, on va dire. Normalement, c'est 5 plus 5. Les menaces aussi sur les entreprises et les particuliers qui utilisent ce qu'on appelle un VPN, ce petit boîtier magique qui permet d'accéder à un Internet plus libre. Ces menaces seront mises à exécution et c'est tout de suite courant mars. Bref, il semble resserrer la vis, ce président chinois. Il prend de la place, il prend de l'espace, après avoir fait beaucoup de purges aussi sur les corrompus du parti. On va y venir dans un instant. Bonsoir Valérie Niquet.
Bonsoir.
Responsable du programme Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette envie de faire sauter les verrous de la limitation de mandat? Parce que finalement, on a l'impression que c'était dans l'air, cette histoire.
Alors, ce qui est certain, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012, on sent que Xi Jinping veut s'imposer. Ça a passé d'abord par cette campagne anticorruption dont vous avez parlé.
On y reviendra.
Qui lui a surtout permis d'éliminer tous ceux qui étaient encore attachés à ses prédécesseurs et tous les potentiels concurrents. Par ailleurs, il y a eu ce fameux 19e congrès du Parti communiste au mois d'octobre et on a vu que là, il n'a pas nommé, encore une fois, des gens suffisamment jeunes qui pourraient le remplacer. Donc ça montrait bien qu'il avait l'intention de rester au pouvoir. La question était qu'il peut rester président du parti aussi longtemps qu'il veut. En revanche, pour président de la République, il y avait une limite à 2 mandats, ce qui l'aurait obligé à choisir une sorte de bicéphalisme que manifestement, il n'a pas envie de mettre en place. Donc, il propose de changer la Constitution et bien entendu ça devrait être accepté. Bientôt il va y avoir la réunion de l'Assemblée populaire nationale. C'est là qu'on entérinera ces décisions. On voit vraiment qu'il y a cette volonté de reprise en main politique, idéologique. Xi Jinping a été élevé en pleine révolution culturelle. Il en a lui-même beaucoup souffert dans sa famille. Il a fait partie de ces jeunes envoyés à la campagne pendant des années.
Son père avait suivi Mao avant d'être...
Voilà, et puis d'être purgé. Il a revu son père très tard. Mais ce qu'il semble en avoir retenu, c'est que finalement, l'homme fort est la solution la plus efficace pour maintenir le Parti communiste au pouvoir. Et c'est son objectif, véritablement, avec deux dates, dont la plus importante est 2049.
Au-delà de 10 ans, c'est une chose, Valérie Niquet, mais président à vie, c'est autre chose. Il n'est pas complètement fou, Xi Jinping, quand même, non?
Le problème,
est-ce que c'est vers ça qu'on s'achemine réellement?
Non, mais alors, président à vie, on n'en sait rien. On verra s'il reste deux mandats, trois mandats. D'abord, il y a énormément d'interrogations sur l'avenir de la Chine elle-même. Mm-hmm. Il ne faudrait pas s'imaginer que peut-être dans 100 ans ou dans 50 ans, la Chine sera telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'on peut penser aussi de ce genre de décision de retour à l'autoritarisme ou au culte de la personnalité assez évident, ça me fait plus penser à un régime qui a très peur, finalement, et c'est ce qu'on sent quand on lit la presse chinoise, qui a très peur des changements, des évolutions, des réformes, de la mise en danger des fondements d'un système qui ne veut pas évoluer et qui donc choisit le repli sur soi. Vous mentionniez le contrôle sur Internet, par exemple.
Alors, aussi. On va y venir. Je voudrais qu'on aille faire un petit aller-retour à Pékin d'abord, voir un peu comment on a réagi là-bas à cette annonce donc de changement de la Constitution qui est imminente. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne.
On s'y attendait, évidemment, mais comment on réagit réellement du côté de Pékin à cette annonce de Xi Jinping ? Oui, même si les Chinois s'y attendaient, on sait depuis le mois d'octobre dernier, depuis le dernier congrès du Parti communiste, que c'était dans l'air. Le fait est, quand ça arrive, c'est très différent, disent beaucoup de gens. C'est un sujet de discussion, oui, en Chine, et sans doute que l'émotion, et je dirais même l'inquiétude, est plus importante qu'on ne l'imagine. Le nombre de demandes de renseignements, notamment auprès des agences spécialisées dans l'émigration des Chinois à l'étranger, s'est envolé depuis que l'annonce d'une modification de la Constitution a été faite dimanche soir. Ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ces derniers jours, malgré la censure qui efface les messages au fur et à mesure, est assez clair. Xi Jinping est comparé à un empereur, la Chine à la Corée du Nord. C'est pathétique, écrit un internaute. Depuis très longtemps, et c'est suffisamment rare pour le signaler, une lettre ouverte aussi d'un ancien rédacteur en chef dissident, Li Datong, a été publiée sur son compte WeChat, qui est une messagerie très populaire en Chine. Et Monsieur Li a écrit que la suppression de la limite à deux mandats sèmera les graines du chaos. Monsieur Li, qui a parlé à nos collègues de la BBC, a dit qu'il était trop vieux pour avoir peur des autorités chinoises.
Alors, est-ce que la presse officielle, on imagine que oui, Dominique, a allumé des contre-feux déjà ?
En randonnion, oui, le China Daily ou le Global Times font le service après-vente pour expliquer que la suppression de la limite du mandat présidentiel est nécessaire et qu'il était temps de le faire. Pour les journaux d'État, la modification de la Constitution correspond à la nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises, la fameuse pensée de Xi Jinping qui sera inscrite dans la Constitution.
Merci beaucoup Dominique André, avec nous depuis Pékin. Valérie Niquet, dans ce que disait Dominique André à l'instant, la peur du chaos, vous l'évoquiez à l'instant, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'on en est vraiment là ?
Alors pendant longtemps, les Chinois, et sans doute encore aujourd'hui une bonne partie de la population, acceptaient ce régime très autoritaire parce qu'il garantissait une croissance économique qui a vraiment amélioré les conditions de vie de la population, une certaine liberté si on se mêlait pas trop de politique, la liberté de voyager aussi, et puis la stabilité. Et ça, c'était très important, surtout après ces décennies de révolution culturelle, de campagne maoïste qui avait eu des conséquences dramatiques pour la population et pour la Chine. Aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup, c'est que le côté pragmatique, institutionnalisé dans la succession des dirigeants que Deng Xiaoping, celui qui avait lancé les réformes dans les années 70, avait réussi à imposer, et ses successeurs aussi, eh bien c'est ça qui est remis en question. Et on a l'impression qu'on a un retour en arrière vers des pratiques qui étaient celles justement des époques les plus terribles de l'histoire chinoise récente, et dans un contexte qui en plus n'est pas facile, une croissance économique qui ralentit, des tensions extérieures importantes, on pense à la Corée du Nord, aux relations avec les États-Unis. Et le choix de Xi Jinping de fuite en avant dans l'autoritarisme et peut-être dans un nationalisme plus agressif à l'extérieur, eh bien, ça inquiète les gens. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'immigration. D'abord, les Chinois votent depuis des années avec leurs pieds. C'est sans doute ce qui a permis au régime de tenir aussi longtemps. Contrairement à l'URSS, on peut quitter la Chine. Mais c'est vraiment... Et puis cette idée aussi qu'avec ces mesures, eh bien, c'est l'espoir de voir les dirigeants chinois capables de réformer la Chine qui s'envolent en quelque sorte. Et c'est malheureusement, un obstacle que la Chine, dans son histoire, a rencontré très souvent, que ce soit à l'époque du Kuomintang, avant la guerre, que ce soit même à la fin de l'époque impériale, ou aujourd'hui, cette volonté de s'accrocher à un passé et d'être incapable d'imposer des réformes qui, véritablement, pourraient déboucher sur le développement à long terme du pays.
Mais au fond, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de Xi Jinping. Plus le pays s'ouvre, plus il se referme politiquement. Il y a une espèce de syndrome Gorbatchev là-dedans, non ? Plus on ouvre le pays, si on ouvre le pays, on risque de se retrouver dans la situation de l'URSS à l'époque. Tout va s'effondrer sous nos pieds.
Effectivement, la menace principale telle qu'elle est toujours répétée par les Chinois, les stratèges, les dirigeants politiques, c'est le changement de régime. Un changement de régime qui serait encouragé par les forces du mal à l'extérieur, les démocraties et ce genre de choses. Et donc le contre-exemple, évidemment, c'est l'effondrement de l'URSS. Et en 2012, le premier discours de Xi Jinping, c'était pour dire que si l'URSS avait disparu, c'est parce que personne n'avait eu le courage de le défendre, y compris d'une manière très énergique. Et je pense que sa mission, véritablement, au-delà du rêve chinois, des routes de la soie et de tous ces slogans multipliés, eh bien, c'est d'être celui qui aura permis le maintien au pouvoir du Parti communiste et du système politique pour 100 ans. En Europe, on a connu des espoirs de Grand Reich de 1000 ans. C'est pas toujours très très positif et ça en dit long d'ailleurs sur l'incapacité, encore une fois, de ce système politique de véritablement s'ouvrir lorsqu'il est confronté à des choix vraiment importants, que ce soit en matière politique mais aussi en matière de libéralisation économique par exemple.
Mais alors, la fameuse purge dont on parlait à l'instant, donc le fait d'avoir effectivement quasiment vidé toute une partie du Parti communiste chinois, les gens accusés de corruption, certains à raison d'ailleurs, hein, est-ce que ça lui a attiré des ennuis quand même? Est-ce que ça veut dire que les ennuis pourraient venir à la fois de la population chinoise, comme vous le dites, mais aussi peut-être de l'intérieur du parti ou pas du tout?
Alors en fait, la population chinoise la plus simple, elle a plutôt soutenu cette campagne de lutte anti-corruption, puisque la corruption fait vraiment partie du système et était quelque chose qui est haï par la population, les petits fonctionnaires corrompus. Ceci dit, au sein du parti, les choix de Xi Jinping ne font pas que des heureux. D'abord, ils bloquent la succession. En plus, demander aux membres du parti les plus haut placés de servir le peuple, qui est le slogan officiel qu'on voit sur tous les bâtiments officiels, beaucoup en avaient perdu l'habitude. Et surtout, il a réintroduit la peur. C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, les Chinois, même les plus hauts cadres, quand il arrivait quelque chose, n'avaient pas vraiment peur. Alors qu'aujourd'hui, à nouveau, la peur est revenue, ce qui explique encore une fois aussi cette volonté de quitter le pays ou de mettre les choses à l'abri, les enfants, la fortune. Et donc, il ne doit pas se faire que des amis. Simplement, pour le moment, personne ne bouge. Sans doute, il sera guetté de très près à la moindre erreur ou au moindre dérapage. Et notamment, est-ce qu'il sera capable de poursuivre la croissance économique? L'endettement est dramatique et pour le moment, rien n'est fait parce que lutter contre l'endettement, c'est risquer la fin de la croissance. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir de la Chine, contrairement à l'image qu'il voudrait nous donner.
Et l'image qu'il veut nous donner, d'abord, c'est celle d'un président moderne. Il y a une espèce de culte de la personnalité qui a été développée autour de ce monsieur. Il y a sa femme qui était chanteuse lyrique, etc. Est-ce que cette image-là, elle est passée auprès des Chinois ou pas?
Oui, enfin, moderne, ça rappelle surtout des périodes plus anciennes. Hein. C'est vraiment, quand on va à Pékin, les slogans dans tout partout. Mao aussi avait sa Jiang Qing à ses côtés comme héroïne révolutionnaire. Et donc, c'est plutôt un retour en arrière, l'image de Xi Jinping, véritablement. Hein. Donc, plus qu'une image de modernité.
Et quand il parle, parce qu'effectivement, c'est son grand projet de rendre sa grandeur à la Chine, superpuissance moderne, etc. On le compare à qui, finalement? Est-ce que c'est une sorte de Poutine chinois, Xi Jinping? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça?
En fait, c'est difficile de le comparer totalement à Poutine. Il y a un autoritarisme, mais il faut quand même rappeler qu'en Russie, quels que soient les résultats, il y a des élections. Il y a eu une transition politique. Elle n'est pas parfaite du tout.
Non, mais les prochaines élections vont probablement prouver
que... Non, mais en Chine, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu aucune transition politique. Donc là, il y a une vraie différence. Poutine avait été obligé de faire semblant lorsqu'il a choisi de placer Medvedev à sa place. Xi Jinping peut tout décider lui-même ou entouré de quelques personnes. Et aussi, ce qui est frappant en Chine encore une fois aujourd'hui, c'est cette volonté de redonner la grandeur, son image de grandeur à la Chine, en se référant en permanence au passé, alors qu'on a souvent l'impression à l'étranger que justement c'est la puissance de l'avenir, la prochaine grande puissance dans le monde. Mais cette puissance-là, elle a toujours besoin de se référer aux instruments de la puissance qui étaient ceux du 19e siècle, par exemple, et non pas ceux d'un monde plus moderne et plus apaisé. On voit bien qu'aujourd'hui, pour le régime chinois, ce qui compte, c'est encore une fois tenir. C'est très léniniste et ça reste ancré dans ce passé-là.
Et c'est le sens, j'imagine, de l'interdiction des VPN, notamment, donc cette manière d'avoir un accès à Internet.
Le contrôle d'Internet, c'est-à-dire absolument de la presse, des journalistes, des avocats, qui s'est considérablement aggravé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Et cette décision de contrôler les VPN a été prise il y a quelques mois. Elle entre en vigueur maintenant et elle commence à vraiment poser des problèmes. On sait que les expatriés aujourd'hui sont très difficiles à trouver pour s'installer en Chine pour les grandes entreprises, ce qui n'était pas le cas par le passé à cause de la pollution et à cause du fait que quand on est en Chine, on n'a plus accès au monde extérieur.
Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'il se tire une balle dans le pied quand même économiquement en supprimant, quand on est une entreprise étrangère, qu'on s'installe, qu'on n'a plus accès à Internet ou extrêmement difficilement, ça va faire réfléchir à deux fois.
C'est pour
quand
ça
même.
Effectivement qu'au début que je disais que cette décision n'est peut-être pas une décision de puissance, mais plutôt de dérapage devant un sentiment d'inquiétude que les choses échappent, parce que il y a une part d'irrationalité qui contraste vraiment avec le pragmatisme dont avait su faire preuve la Chine depuis la mise en œuvre des réformes à la fin des années 70.
On a l'impression qu'il y a un peu, il y a l'un côté, il y a l'autre, il y a effectivement les interdictions de VPN et puis de l'autre côté on a Apple qui ouvre son cloud, donc ces données qui pourront désormais, enfin en tout cas qui sont moins protégées.
Qui seront effectivement contrôlées par un régime et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Mais ce qui est certain, c'est que les décisions chinoises, que ce soit en Chine même, mais à l'étranger aussi, on voit les scandales en Australie ou en Nouvelle-Zélande devant la manière dont Pékin essaye d'influencer, y compris les élections. On en parle moins que la Russie, mais ça existe aussi. Et donc, la propagande, la guerre de la formation, comme on dit en Chine, qui est extrêmement active. Et tout ceci suscite tout de même des réactions d'inquiétude ou d'hostilité. Et finalement, l'image et la décision prise par Xi Jinping vient compléter ça. Et finalement, l'image de la Chine, grande puissance, est beaucoup moins positive aujourd'hui, y compris dans la presse occidentale et même auprès des milieux d'affaires, comme vous l'indiquiez, qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques années. Donc, effectivement, la décision n'est pas d'une rationalité parfaite.
Pas rationnelle, mais alors inquiète à l'intérieur, vous l'avez dit, mais est-ce que vraiment, vis-à-vis notamment de l'extérieur, ça ennuie Xi Jinping? Est-ce qu'au final, il se dit, moi, ça m'est totalement égal, je fais les choses telles que je l'ai dit, je trace ma route, y compris celle de la soie. Est-ce qu'on peut penser de moi à l'extérieur, dans les autres puissances? Je m'en fiche. De toute façon, économiquement, pour l'instant, je suis toujours meilleur qu'eux.
Oui, enfin, meilleur qu'eux, il faut voir combien de temps on peut tenir avec un endettement à près de 300% aujourd'hui, alors qu'il est masqué parce que le régime, effectivement, a les moyens de contrôler les choses, mais qui pose des vrais problèmes de rééquilibrage qui ne sont absolument pas résolus.
Et combien de temps, d'ailleurs? Sincèrement, alors c'est compliqué, pardon, hein, pour cette question,
mais c'est très difficile.
Est-ce qu'on peut se dire, il reste, je ne sais pas, 10 ans à la Chine économiquement comme ça? Est-ce que c'est plus court?
Non, je pense que c'est extrêmement difficile de le dire. Certains vous diront qu'on ne peut pas tenir même 10 ans à ce rythme-là d'investissement, à moins d'avoir un taux de croissance et une reprise portée par la croissance extérieure très forte. Mais depuis la crise de 2008, ça n'est plus le cas. Les marchés extérieurs se sont tout de même repliés. Et justement, un des objectifs des routes de la soie, c'est d'essayer de trouver des ressources à ces surcapacités chinoises, vers l'extérieur. Mais là aussi, il y a beaucoup d'annonces, 1 000 milliards de dollars d'investissement. Et derrière, on s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus modeste. Donc, je pense que avec ces décisions, cette décision, Xi Jinping a l'impression qu'il peut reprendre le contrôle, reprendre les choses en main, conserver plus exactement le contrôle. L'image de la Chine, encore une fois, a tendance à se dégrader sur la scène internationale. Elle est très servie par l'image de Trump, qui est encore pire pour le moment. Mais Trump n'est pas éternel, lui, on le sait au moins. Et donc, je ne parierais pas, même peut-être à 10 ou 20 ans, sur une Chine sans aucune évolution, telle que Xi Jinping a l'air de vouloir la souhaiter.
Et vous aurez forcément l'occasion de revenir pour en parler dans Un jour dans le monde. Valérie Niquet, merci beaucoup, responsable du programme Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle La puissance chinoise en sans question et c'est publié chez Talendier. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Guinée avec le Tierra Circus en Égypte, au Nigeria et dans l'Arctique aussi avec l'Arctique avec Julie Pietri et Sous les radars. Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu les films qui comptent pour les Oscars, vous avez vu notamment le déjà encensé Call Me By Your Name.
Exactement, et je vais vous présenter le chouchou Timothée Chalamet, 22 ans, franco-américain, à l'affiche de ce film et aussi d'un autre qui sort aujourd'hui sur les écrans. Et deux films qui ont toutes les chances de gagner un Oscar dimanche.
Voilà, deux films aux Oscars et un Chalamet, effectivement, qu'on trouve partout. À tout à l'heure, Anthony Bélanger, oui, bonsoir. L'édito de 18h55. La Corée du Nord a vendu des armes à la Syrie, alors?
Oui, c'est ce que raconte un rapport de l'ONU qui est assez inquiétant d'ailleurs. On verra décidément qu'entre la Syrie et la Corée du Nord, une espèce de Dax, quoi, de mal au carré.
Allez, à tout à l'heure. Le tour de la planète n'est pas fini sur France Inter. Un détour par Londres avec Shame, One Reason.
Fuck. Sucks are always
Shame sur France Inter. One Rizla, Julie Pietri est là sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irresmaciable Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et l'info qui vous a échappé. Sous les radars commence au Nigeria ce soir.
À Dapchi, nord-est du pays, 275 kilomètres de Chibok, cette ville où 276 lycéennes avaient été kidnappées par Boko Haram en 2014. Dapchi, ce n'est pas donc tout près, mais l'histoire est similaire. Il y a déjà 10 jours, une école y est attaquée par des hommes armés. 110 jeunes filles disparaissent. Le ministre de l'Information explique alors ce que vous devez comprendre, c'est que Boko Haram est à l'agonie. Ce qu'il tente de faire, là, c'est de plonger le gouvernement dans l'embarras. Ils ont besoin d'oxygène. Le fait qu'on parle d'eux leur apporte cet oxygène. Mais grâce à nos valeureux soldats...
Boko Haram is almost over.
Boko Haram, c'est presque fini, ses jours sont comptés. Sauf que les jours avançant, les témoignages d'habitants, de parents se multiplient. Cet homme raconte à l'AFP que quoi qu'en dise le gouvernement, la peur des djihadistes règne toujours. Ici dans cette ville, tout le monde est désespéré, dit-il. La plupart d'entre nous dormons sous des arbres. Nous attendons toujours le retour de nos étudiantes. Le gouvernement local explique aussi que quoi qu'en dise le gouvernement, il n'y a dans sa région ni sécurité, ni protection et que Boko Haram, certes moins puissant, est bien toujours capable d'attaques lourdes. Je ne veux pas mettre la faute sur les autres, mais je veux qu'une chose soit claire, il n'y avait aucune présence militaire à Dapchi au moment des faits, ce qui n'a bien sûr pas plu du tout à l'armée. Le président nigérian Buhari, qui a mis près d'une semaine à prononcer les mots enlèvement, kidnapping, a annoncé hier qu'il mettait en place un comité pour comprendre ce qui s'est exactement passé. Les conclusions sont attendues pour la mi-mars. Il avait été élu, cet homme, après l'enlèvement justement de Chibok. Lors de sa campagne, il avait promis d'éradiquer Boko Haram.
Julie, on en a déjà parlé dans Un jour dans le monde, l'histoire de cette femme, cette chanteuse égyptienne Sherine Abdelwahab. Eh bien, elle vient d'être condamnée.
6 mois de prison pour la chanteuse pop qui avait plaisanté sur la qualité de l'eau du Nil lors d'un concert. En gros, un fan qui lui demandait de chanter « Avez-vous bu l'eau du Nil ?», l'une de ses chansons que l'on entend là derrière ma voix. Elle avait répondu que la boire, c'était risquer d'attraper des vers, des parasites. Or, le Nil, on n'y touche pas en Égypte, sujet sensible avec l'approvisionnement en eau en creux du pays. C'est un tribunal du Caire qui a donc pris cette décision hier. Motif, diffusion de fausses informations, troubles à l'ordre public. Sherine Abdelwahab a encore la possibilité de faire appel.
Voilà, le pôle Nord en surchauffe.
Quand ici en France, on parle neige, verglas et froid, l'Arctique, pendant ce temps-là, a trop chaud.
C'est un monde de l'extrême. Le Grand Nord. Un univers de glace et de pureté où l'humain n'est encore qu'un intrus.
Voilà, avec un petit cri d'ours
petit comme vous
polaire,
êtes,
attendez, en prime.
Il est encore en forme.
Cet univers de glace connaît en ce moment des températures 30 degrés au-dessus des normales de saison, c'est-à-dire des températures positives, de l'air doux. 6 degrés par exemple dimanche à l'extrême nord du Groenland, quand, et c'est le paradoxe, la Russie descend jusqu'à moins 35, la Pologne moins 12, sans parler de la France. C'était rare ce type de remontée il y a encore 10 ans, mais ces dernières années ça arrive régulièrement. La banquise n'a jamais été aussi étroite en près de 50 ans, 200 000 km² environ, et les climatologues imaginent déjà un océan arctique sans glace l'été d'ici une trentaine d'années.
Merci beaucoup sous les radars et Julie Pietri dans Un jour dans le monde sur France Inter. Reportage.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Et c'est pour Conakry, en Guinée, que nous partons ce soir retrouver Thiera Circus. Retrouver parce que vous les connaissez peut-être, au mois de décembre dernier, cette jeune compagnie a fait salle comble au musée du Quai Branly, à Paris. Le spectacle s'appelle Boulevard Conakry, il raconte le brouhaha des rues, l'ambiance chaleureuse, vivante des marchés. Depuis, Thiera Circus tourne en Europe, mais pas seulement, il y a beaucoup de choses derrière. Bonsoir François-Xavier Freland.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Derrière Thiera Circus, François-Xavier, il y a autre chose, il y a un projet social, un projet de réinsertion des enfants des rues, et c'est ce que vous allez nous raconter.
Et oui Fabienne, vous les entendez rire hein, derrière moi, ces enfants, ils ont entre 5 et 12 ans, là ils font des saltos avant, arrière, pieds nus sur la dalle de béton hein, d'une ancienne maison des jeunes qui date de Sékou Touré, apparemment vous savez l'ancien président autoritaire. dictateur, hein, même à la fin de son régime, mais qui avait quand même misé à son époque sur la culture. Alors nous sommes dans le quartier populaire de Dixin, c'est dans ce bâtiment récupéré, hein, donc sur deux étages, pas en très bon état, que sont accueillis provisoirement eh bien, certains enfants à qui Teria Circus, grâce à une partie des fonds récoltés lors de leur tournée en Europe, eh bien, offre un toit, un repas, des cours de français ou d'arabe, et surtout leur offre l'enseignement des arts du cirque. C'est là en gros que la troupe prépare la relève. On écoute Bakala Camara, c'est lui qui a fondé Teria Circus en 2008, une troupe née sur les cendres hein, de la première compagnie de voltigeurs guinéens, dont certains de vos auditeurs se souviennent peut-être, Circus Baobab, on l'écoute.
Teria Circus, c'est une langue qui vient de chez moi, une langue mandingue, qui s'appelle amitié. Ça veut dire que quand Circus Baobab a arrêté en 2008, moi, je me sentais mal, parce que moi, j'étais un coordinateur général du Circus Baobab. Je coordonnais les artistes et tout ça. Et je disais que non, c'est une belle histoire. Il ne faut pas qu'on arrête là. On peut continuer encore mieux que ça, parce qu'il y a des enfants qui viennent les mêmes d'origine que nous et qui ont besoin de nous.
Alors Fabienne, on reprend la route avec Bakala Camara, direction le célèbre stade du 28 septembre, pas très loin. C'est là qu'à sa période faste, Sékou Touré organisait ses grands meetings. C'est là aussi qu'a eu lieu la répression, terrible répression contre des jeunes en 2009. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est dans le parc hein, du stade, en mauvais état, que la jeunesse eh bien, passe parfois son ennui à faire du sport. Et c'est là, dans un vieil entrepôt du stade, derrière cette lourde porte qui grince, on l'entend, que s'entraînent les futurs stars de la troupe. Ils ont entre 15 et 25 ans. Il y a ici des acrobates, des voltigeurs, des contorsionnistes. Abou Mangé Silla, 23 ans, est cordiste. Il nous parle des difficultés rencontrées eh bien, pour réaliser son rêve, alors que le matériel est défectueux par rapport à l'Europe. Vieux tapis de sol troués, cordes élimées, cerceaux en tuyaux de récup. On l'écoute.
Bon, ça fait à peu près de 4 ans que je suis ce travail pour chercher mon avenir. Bon, on n'a pas tous les matériels pour travailler. On a peut-être un seul matériel parce que ça aussi c'est gâté. Il n'y a pas de matériel. Ça nous gêne tellement. Ils ont des matériels. Ici, là, il n'y a pas de matériel. Sinon, on allait les affronter. Ouais, c'est ça.
Oui, voilà mes frères. On vient de prier. Hein.
Il faut savoir que dans la tradition guinéenne, les enfants des rues faisaient le spectacle lors des mariages pour récupérer un peu d'argent. Alors vous l'avez compris, ce projet va plus loin que le simple cirque. Il offre à de jeunes désœuvrés une perspective professionnelle en Guinée pour éviter eh bien, notamment que demain ils soient aussi tentés par le grand voyage vers l'Europe, comme le confirme Bakala Camara.
Dans le rue, c'est pas facile. Moi, je sais pas lire, apprendre les choses. Hein. J'ai tout pris dans le rue. Pour plein de choses, je l'ai pris de rue. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais aider ces jeunes-là en sortie, dormir mieux, manger mieux, c'est ça qui est mieux pour tout le monde. Ça évitera l'immigration. Regarde tous les jeunes qui sont en train de voir là. Tu les regardes, ils sont pas demandés. Qu'est-ce qu'ils font demain? Ils vont au Libye pour éviter ça. Donne-nous les moyens. Mais si on n'a pas de moyens, on va partir sur la mer. Hein.
Alors grâce aux fonds récoltés lors de sa tournée en Europe, eh bien, Teria Circus compte ouvrir bientôt un centre culturel et social à l'écart de la ville, histoire eh bien, de redonner hein, de l'espoir, l'envie de rester surtout en Guinée, de mettre au vert tous ces enfants qui ne connaissent que la rue Fabien.
Sur les traces de Teria Circus et des enfants aussi, les enfants de la rue. Merci beaucoup François-Xavier Freland. On écoute Sarah McKenzie, tiens, sur France Inter. Quoi.
Quoi. What have you done to me? The music plays with me. I never meant to walk your way, and then one day love walked my way, and now I'm all la 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 la, pa 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 pa, qua 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 qua, qua 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 qua, qua 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 qua. What is the meaning of pa 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 pa? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 la, pa 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 pa, qua 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 qua, oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, a way now. Pa da pa 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 pa. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, pa da pa pa pa. Qua 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 qua. Je ne sais quoi. Truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua.
Quoi, 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 ben rien, Sarah McKenzie, nous ça va.
3, 2, 1,
Winter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is.
Un jour dans le monde.
Action! Action, Corinne Pellissier. Le cinéma en VO, comme tous les mercredis, on est à 4 jours des Oscars, juste après les Césars. Donc, Corinne, 2 films très très attendus qui sortent aujourd'hui. Lady Bird de Greta Gerwig et puis le fameux Call Me By Your Name de l'Italien Luca Guadagnino. Voilà, Guadagnino, c'est ça ?
Guadagnino, exactement.
Est-ce que les Oscars auront l'audace, après Moonlight l'année dernière, de récompenser à nouveau un film qui parle d'homosexualité ? Est-ce que 8 ans après Des Mineurs et Catherine Bigelow, on choisira de donner l'Oscar à une femme à nouveau ?
Eh bien, suspense. J'ai envie de vous dire, c'est un choix difficile, hein, d'autant qu'il y a en face des candidats redoutables cette année. Guillermo del Toro, La Forme de l'eau, 13 nominations, déjà un Lion d'Or à Venise, 2 BAFTA, 2 Golden Globes, et Les Panneaux de la Vengeance, 3 Billboards de Martin McDonagh, qui a obtenu lui aussi une pluie de récompenses. Mais il est vrai qu'entre l'affaire Weinstein, le hashtag MeToo et le projet Time's Up, on ressent cette année une envie de donner plus de pouvoir aux femmes. Et jusqu'à présent, seule Catherine Bigelow est parvenue à décrocher un Oscar du meilleur film en 2010. Avec Des Mineurs.
Donc, est-ce que Lady Bird a la trempe d'un winner ? On en parle dans un instant. Bonne annonce.
Lady Bird, is that your given name?
Yeah.
Why is it in quotes?
I gave it to myself. It's given to me by me.
Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that was like a metaphor. But there are actual train tracks.
Do you have sex?
You're having sex.
I'm ready. Just wanted it to be special.
Why? You're gonna have so much unspecial sex in your life.
Alors Greta Gerwig, Corinne Pellissier, c'est la réalisatrice qui monte, mais on la connaît surtout comme comédienne, nous, en fait.
Oui, et comme égérie du mouvement Mumblecore, vous savez, ces films indés à petit budget qui mettent en scène des trentenaires avec des dialogues souvent en impro. C'est le réalisateur Noah Baumbach en 2010 qui a donné un coup d'accélérateur à sa carrière avec Green Bear, puis avec Francesa, puis ensuite il y a eu To Rum With Love de Woody Allen. Ça fait longtemps que Greta Gerwig avait envie de réaliser un film. Elle voulait d'ailleurs être dramaturge pendant ses études. Et cette Lady Bird, eh bien, c'est un peu elle, les cheveux roses en moins. Une ado en conflit avec sa mère qui s'ennuie dans sa ville à Sacramento, qu'elle considère comme le pire trou du monde et qui ne rêve que de New York et de culture avec un grand C.
Et c'est ça qui fait le lien entre cette Lady Bird et aussi donc le deuxième film très attendu de la semaine, le comédien Timothée Chalamet, La Nouvelle Coqueluche d'Hollywood, est dedans.
Et oui, il est franco-américain, il a 22 ans, et en l'espace de deux films, eh bien, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, aussi convaincant en rocker nonchalant dans Lady Bird qu'en égérigué dans le nouveau film du réalisateur Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, pour lequel il est en lice pour l'Oscar du meilleur acteur.
Souvent, quand on est jeune, on joue le fils dans la famille, ou le copain, ou le petit copain. C'est rare, ces opportunités, à un jeune âge, d'avoir des rôles qui sont complexes et pleins de contradictions. Et aussi l'opportunité de travailler avec Luca Guadagnino, qui pour moi, avant qu'on a tourné le film, c'était vraiment un des réalisateurs les plus fraîches et nouveaux. Et c'était vraiment un rêve pour travailler sur ce projet.
Timothée dans le film joue Elio, il a 17 ans,
il a un peu perdu son français
avec
passage,
ses parents, mais oui, il parle beaucoup plus américain que français. Et il va donc tomber sur un jeune homme plus âgé que lui, ami de son père, il va tomber amoureux de lui, ça va se faire de manière très progressive, curiosité au début, ensuite de l'agitation, du rejet, et puis beaucoup de désir à la fin. C'est une histoire très belle, très délicate. Faut pas oublier qu'on est dans les années 80, que ce n'est pas simple d'assumer sa sexualité. Filmé avec beaucoup de pudeur, et Luca Guadagnino, le réalisateur, a su éviter tous les écueils d'une romance, on va dire, un peu cucu ou qui serait trop démonstrative. Et voilà comment il a fait.
Every movie is a documentary on the actors who play the movie. Bernardo Bertolucci says.
Quand vous faites un film, c'est comme si vous tourniez un documentaire sur les comédiens qui travaillent avec vous. C'est ce que Bernardo Bertolucci avait l'habitude de dire. J'y crois beaucoup, c'est pour ça que je les pousse à travers la caméra à me donner autre chose qu'un jeu d'acteur que je trouve profondément ennuyeux. C'est tout sauf ça, le cinéma.
Of course, as a filmmaker, I was interested in showing passion and desire coming off of the body of a young boy.
En tant que réalisateur, cela m'intéressait beaucoup, évidemment, de montrer la passion et le désir qui émanent d'un corps si jeune. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est la dimension familiale. Montrer comment nos liens nous poussent à nous dire vraiment les choses.
It is possible to talk to people and to listen.
À nous écouter, à nous faire changer d'avis et modifier nos attitudes.
Ça s'appelle Call Me By Your Name, donc, avec au générique la musique qu'on entend là, celle de Sufjan Stevens. Et on verra donc, Corinne, si vous avez raison, on verra s'il s'impose comme la belle histoire d'amour que vous nous avez donné, en tout cas, envie d'aller voir. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, les Jeux Olympiques à peine terminés, voilà qu'on reparle de nos amis de Corée du Nord. Alors.
Et pas dans des termes aussi sympathiques que lorsque des pom-pom girls nord-coréennes, vous savez, s'égosillent en cadence dans les tribunes de Pyeongchang. Non, cette fois-ci, c'est un rapport de l'ONU qui a fuité dans le New York Times et qui nous ramène à la dure réalité. Alors que dit cette enquête de 200 pages, compilée par les services des Nations Unies et dont la date de publication officielle n'est évidemment pas encore connue, que la Corée du Nord collabore de façon régulière avec la Syrie de Bachar el-Assad. Collaborer, ça signifie d'abord envoyer du matériel à Damas, du matériel qui irait de pièces de missiles à des éléments indispensables à la construction d'installations chimiques. Et ce depuis au moins 2012, c'est-à-dire un an après le début de la guerre. Alors on le sait en partie grâce à l'analyse de bateaux nord-coréens interceptés en direction de Damas et en partie aussi grâce à la coopération de services secrets, vous savez, de pays membres, comme le note pudiquement le rapport en question.
Mais alors est-ce que c'est si étonnant que ça que la Corée du Nord collabore avec la Syrie ?
Franchement, non. On sait même que des ingénieurs spécialisés dans les missiles balistiques ont visité la Syrie en 2016. Mais la coopération entre les deux pays dure en fait depuis des décennies. Le programme d'armement chimique syrien a largement été assisté, dans les années 90, par des experts nord-coréens. Des pilotes nord-coréens ont même volé aux côtés des Syriens lors des guerres arabo-israéliennes. C'était dans les années 60 et 70. C'est même grâce à l'expertise nord-coréenne que la Syrie a pu concevoir une centrale nucléaire capable de produire du plutonium, centrale détruite par Israël en 2007. Autrement dit, entre Nord-Coréens et Syriens, c'est de l'histoire ancienne. Il y a même une sinistre anecdote rapportée par le New York Times. En 2015, en pleine guerre donc, la Syrie a voulu honorer l'aide et l'assistance de la Corée du Nord en inaugurant un monument et un parc dédié à Kim Il-sung, vous savez, le fondateur de la dynastie communiste des Kim.
Et en même temps, Anthony, pour qui ces fuites sont-elles les plus embarrassantes ?
D'abord et avant tout pour la communauté internationale, bien sûr. Ce rapport met en lumière une collaboration certes ancienne mais continue, il va jusqu'en 2017, ce rapport tout de même, entre deux pays, la Syrie et la Corée Corée du Nord, qui, je le rappelle, sont sous embargo international quasi absolu. Or donc, des livraisons de matériel sensible sont encore possibles entre ces deux pays. Deuxième pays embarrassé, a priori, la Russie. Encore que rien d'onusien n'embarrasse vraiment Vladimir Poutine. Reste que rien n'est possible en Syrie sans l'accord de Moscou, tout le monde le sait. Surtout pas lorsqu'il s'agit de livraisons de matériel ou de personnel militaire. Et puis enfin, il y a la Chine, qui peut aussi se sentir visée, elle qui ferme les yeux sur des dizaines d'entreprises paravent installées sur son sol et chargées de commercer pour la Corée du Nord.
Et les États-Unis, non ?
Oui, les États-Unis s'apprêtent pour leur part à rendre public, et ça c'est Donald Trump qui l'a annoncé, de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Les sanctions, vous savez, les plus dures jamais requises contre le régime nord-coréen, c'est dixit par avance Donald Trump. Autrement dit, ce rapport et ses fuites dans la presse américaine ressemblent tout de même à un plan de com' parfaitement chorégraphié. D'abord les accusations, qui par ailleurs sont vraisemblables, voire avérées même. Ensuite les sanctions, qui ne pourront donc qu'être justifiées. Le problème, c'est que ce n'est pas d'une escalade dont on a besoin dans cette région du monde, mais au contraire d'une désescalade. Et je ne vois pas pour le moment comment l'administration de Trump compte y parvenir. Personne d'ailleurs ne voit comment.
Anthony Bélanger, merci beaucoup Anthony. Et pour ceux qui passent par Paris, Anthony, tiens, on en profite, on vous retrouve comme tous les mois pour vos rendez-vous de l'actualité. Ça se passe à l'Institut du Monde Arabe, profitez-en, c'est demain jeudi 1er mars, c'est 19h. Et quel sujet, quel thème ?
Eh bien la Tunisie avec pour sous-titre « Une démocratie en mouvement », il y aura Khadija Finan et puis Jérôme Herteau. Venez nombreux, vous verrez, c'est gratuit et c'est passionnant.
Eh bien écoutez, on compte sur vous, 19h demain, Anthony Bélanger, merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Le vin ce soir est-il un alcool comme les autres ? 01 45 24 7000, ne bougez pas.